Oui, avant de commencer, je suis obligé de passer aux aveux. Ça ne va pas être une vraie synthèse. Voilà, plutôt une sorte de contribution conclusive. Avec une question de départ, que finalement, je me demande si elle n'est pas un peu provocante. Je ne m'étais pas rendu compte sur le moment. Bon, au moins, elle ouvre débat. Alors. Donc ce que je voudrais, c'est essayer de m'inscrire dans le fil de l'esprit collaboratif d'Engagir, c'est-à-dire d'essayer de tenir ensemble une exigence et un agenda scientifique d'un côté, et de l'autre côté un agenda opérationnel, c'est-à-dire les questions que se posent les acteurs, les questions que se posent les gens du réseau, donc articuler les savoirs, les faire dialoguer. Et je m'étais dit, peut-être le mieux, c'est de faire ça à partir de la notion d'utilité sociale. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une question qui a parcouru un peu tous nos échanges de ces deux jours sous une forme d'implicite, c'est-à-dire que le postulat de départ, c'est que les centres sociaux seront davantage utiles socialement s'ils s'engagent résolument dans la démarche de développement du pouvoir d'agir. Voilà. Oui, est-ce que c'est vrai en fait ? Bon. Voilà. Ensuite, c'est une question qui s'impose aux acteurs du monde du social et des centres sociaux en particulier, notamment au travers des questions d'évaluation et d'injonction, avec tout ce qui est demandé en termes d'évaluation d'impact social, d'utilité sociale. Et elle permet de faire un lien avec celle avec la notion de justice sociale. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans le corpus scientifique, ce que les administrations appellent utilité sociale, dans le corpus scientifique, en réalité, ça s'appelle, ça se réfère à un champ qui est celui des théories de la justice sociale. Et cette question de la justice sociale, si j'ai bien compris, est une question qui intéresse de plus en plus le réseau, au point que c'est la question qui structure la démarche congrès. Voilà. Donc c'est un peu une façon d'avoir une pelote qui enroule un nombre important d'enjeux sur lesquels on a pu discuter, et également qui ouvre sur les problématiques à venir. Alors, un des premiers acquis d'Engagir, c'est de confirmer que les projets et les pratiques dans les centres sociaux s'appuient sur un certain nombre de référentiels implicites qui sont en fait des conceptions générales du lien social et politique qui correspondent à des façons partagées de concevoir ce lien social et qui correspondent, enfin qui s'inscrivent dans une sorte de culture politique commune. Je les rappelle rapidement, je vais juste les nommer, c'est-à-dire qu'il y a le référentiel de l'intégration, il y a le référentiel de la cohésion sociale, il y a le référentiel de l'individuation, le référentiel du conflit qui ont été mobilisés par l'équipe Engagir pour restituer ces résultats à plusieurs reprises. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que par rapport à la notion d'utilité sociale, ces référentiels ne sont pas neutres. Alors c'est quoi l'utilité sociale ? J'ai repris une définition qu'on trouve dans un article de deux chercheuses qui nous dit ceci. L'utilité sociale, c'est la valeur que l'action crée pour la personne et la société. La valeur qui est créée pour la personne et la société. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toute évaluation, toute mesure d'utilité sociale, il faut une mesure, il faut une métrique. Ça repose sur des valeurs, et que c'est la valeur qui donne l'instrument de mesure. Donc, c'est un jugement de valeur sur ce qui est socialement utile. Et tout jugement de valeur suppose un référentiel. Donc, en réalité, c'est-à-dire une théorie implicite de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas. Donc, en réalité, les quatre référentiels des centres sociaux sont aussi finalement quatre instruments de mesure de l'utilité sociale, c'est-à-dire que les centres sociaux sont socialement utiles s'ils renforcent l'intégration sociale, premier cas, s'ils renforcent la cohésion sociale, deuxième cas, s'ils permettent aux individus de se réaliser, de devenir de meilleurs entrepreneurs d'eux-mêmes, troisième cas de figure, s'ils permettent de faire reculer l'emprise des catégories dominantes et de permettre à des groupes défavorisés de peser sur les décisions qui les concernent, quatrième référentiel. Voilà. Alors, je le disais un peu en introduction, la justice sociale, d'un point de vue, du point de vue des savoirs savants, comme on dit, la justice sociale, en quelque sorte, c'est la science de l'utilité sociale. Alors, pour comprendre ça, il faut bien voir que l'approche du problème par les référentiels, c'est celui du choix, c'est-à-dire pourquoi prendre celui-ci plutôt que celui-là. Et dans les discussions qu'on a eues, à plusieurs moments, on a dit « oui, bon, mais enfin, en fait, le référentiel de la cohésion sociale, il est bien aussi, arrêtez de nous embêter à nous dire que non, il faudrait plutôt qu'on choisisse celui du conflit, nous, il nous plaît celui de la... » aider les gens à mieux vivre leurs liens sociaux, voilà, c'est aussi très bien. Voilà. Fondamentalement, ce qui fait problème, c'est qu'on manque de critères pour arbitrer entre ces référentiels. Et précisément, la question de la justice sociale, c'est une question qui permet d'arbitrer. Parce que la question de la justice, enfin, la justice sociale, c'est quoi ? C'est les principes qui permettent de rendre compatibles les préférences des gens de telle façon que tout le monde puisse être d'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Défini comme ça, mais la justice sociale, c'est la sélection d'un ensemble de principes qui permettent à toutes les préférences et à toutes les préférences en termes de valeurs de s'accorder entre elles, tout en faisant l'objet d'un assentiment partagé, que tout le monde puisse dire oui, ces principes me conviennent, ils me permettent de vivre comme j'ai envie de vivre, ils me permettent de vivre les valeurs que j'ai envie de vivre. Donc, si on entre dans la question de l'utilité sociale par la justice sociale, eh bien, l'utilité n'est plus un arbitraire, c'est plus, ça consiste plus à dire, ah ben moi je préfère le référentiel de la cohésion sociale, donc je vais mesurer mon utilité à la cohésion sociale. Non, on n'est plus dans cet arbitraire-là. On inscrit cette question de l'utilité dans une nécessité qui est de dire, oui, non, les centres sociaux sont véritablement utiles parce qu'ils servent des formes de justice sociale que tout le monde, tous les individus dans la société, sur lesquels tous les individus dans la société sont de nature à s'accorder, au sujet duquel tout le monde est capable de s'accorder. Voilà. Alors, on va faire l'hypothèse, on va faire l'hypothèse que dans les centres sociaux, ces référentiels comportent eux-mêmes des conceptions, sont sous-tendus par des conceptions de la justice sociale. Alors, une première façon de se donner une représentation d'ensemble, vous ne voyez rien. C'est normal. Vous ne voyez vraiment rien ou... Ouais, les ceux qui sont au fond, ils ne voient rien. Pour analyser les projets des centres sociaux, un premier outil intéressant, c'est celui des référentiels. Et on comprend comment, en fait, les référentiels sont des briques que les projets articulent entre eux, et c'est comme ça qu'un projet singulier se construit. Une autre façon d'analyser ces projets, c'est de se demander à quel niveau de la vie sociale ils se situent. Et ces niveaux de la vie sociale, en fait, ils sont au nombre de trois. Il y a le niveau organisationnel, c'est-à-dire comment la société fonctionne au quotidien. Voilà. Il y a le niveau institutionnel qui renvoie en fait au système décisionnel, au processus par lequel les décisions sont prises sur la façon dont les choses s'organisent. Et puis il y a un niveau que j'avais qualifié de sociétal qui en fait renvoie aux définitions des finalités, c'est-à-dire à quoi bon faire société, quoi. Qu'est-ce qu'on cherche ? Voilà. Ce qu'on peut dire en première approche, c'est que à ces trois niveaux vont correspondre trois grandes familles de conceptions de la justice. Le premier, c'est le niveau de la justice redistributive ou de la justice distributive, c'est-à-dire c'est-à-dire que la question de justice centrale, c'est qui a droit à quoi ? Qui a droit à quoi dans la société telle qu'elle est ? Voilà. Là, typiquement, dans les pratiques des centres sociaux, ça va être... Alors, hier, dans les discussions, quelqu'un a dit, nous, on considère que les gens ont droit aux vacances, ont le droit de partir en vacances. Voilà. Donc, là, on est dans un registre qui est celui de la justice distributive. Le deuxième niveau, celui de la sphère décisionnelle des institutions, renvoie à une autre famille d'approches de la justice, qui est la justice procédurale ou délibérative. Et là, la question, c'est pas qui a droit à quoi, mais c'est comment se mettre d'accord pour définir qui a droit à quoi. Voilà. Et donc là, la question centrale, c'est celle des formes de discussion, de mise en discussion, et du caractère équitable. C'est comment on va organiser une discussion pour que le résultat de la discussion soit valide, que tout le monde puisse s'y reconnaître après coup. Et là, dans les centres sociaux, il y a énormément de pratiques qui relèvent de la justice délibérative. Ça va être la multiplication d'instances délibératives au sein des centres sociaux, les conseils d'usagers, les CA, etc., etc. Ça va être des choses qui ont été évoquées, par exemple l'accompagnement l'accompagnement de la formation de conseillers citoyens. Typiquement, là, on est là-dedans. Ça va être l'aide à l'interlocution avec les pouvoirs publics. Il y a un certain nombre d'exemples qui ont été proposés. Là, on est dans des pratiques qui sont au plus près du community organizing, tel que Julien a pu le présenter, notamment. Voilà. Et le dernier niveau, ce qui concerne la sphère des valeurs, correspond à une autre famille de questions de justice qu'aujourd'hui. Alors, hier, on a moqué Catherine parce qu'elle a parlé d'épistémologie. Donc là, heureusement, j'ai de la chance, la troupe de théâtre est partie. Et cette troisième famille de théories de la justice, a comme étiquette assez barbare celle de justice épistémique. Alors bon, épistémique, c'est quoi? C'est ce qui a trait au savoir, à la connaissance. Donc la question de justice centrale ici, c'est de savoir si l'ensemble des points de vue qui sont présents dans la société sont bien représentés, sont bien pris en compte dans la politique, dans les décisions, etc., etc. C'est-à-dire que, pour le dire différemment, ici, la question centrale, c'est celle des angles morts de l'espace public. C'est l'idée que les décisions, les discussions publiques, sont excluantes, sont partielles, en fait, c'est BFM TV, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui discutent entre eux. Donc, la diversité des points de vue situés, je vais revenir sur cette notion, la diversité des points de vue situés est pas représentée, ce qui fait que l'image que la société se fait d'elle-même est une image fausse. Fausse. En fait, l'image que la société se fait d'elle-même est à partir de laquelle on prend des décisions, on fait de la politique, cette image est en fait l'image que se font les énarques, ceux qui ont fait Subdeco et parfois quelques normaliens, et c'est tout. Voilà. Et que le problème central, c'est celui-là, c'est-à-dire, et c'est un problème d'efficience, voilà. D'où l'expression justice épistémique, c'est-à-dire que l'objet, c'est de faire en sorte que, de la façon la plus exhaustive possible, l'ensemble des points de vue, l'ensemble des représentations soit visible, donc qu'on puisse les prendre en compte, qu'on puisse dire voilà, bon. Donc là, la question ici, c'est est-ce que tous les points de vue sont bien exprimés? Point de vue situé, je reviens là-dessus, c'est une expression importante parce qu'en fait, elle renvoie fondamentalement à la conférence qui n'a pas eu lieu là sur l'intersectionnalité. Pour décrire ce que ça veut dire, le mieux c'est de rentrer par là. Intersectionnalité, c'est quoi? C'est un outil de représentation, un outil d'analyse des rapports sociaux, et c'est aussi un outil de pratique militante. Bon, il y a la conférence n'a pas eu lieu, je ne vais pas la définir. Mais cet outil, comment il est né? Comment il s'est formé? Il s'est formé lorsque les femmes noires, les femmes de couleur aux États-Unis, ont interpellé les femmes blanches en leur disant « Votre féminisme ne nous inclut pas. Parce que votre regard sur le monde, votre regard sur les rapports de genre, ne tient pas compte de la diversité des rapports sociaux, ne tient pas compte de notre position particulière dans la société. Et en fait, votre féminisme est un féminisme de bourgeoise blanche. » Et ce simple coup de force a produit une véritable révolution épistémologique dans le champ des luttes féministes. Et ça a donné lieu à ce concept d'intersectionnalité qui est aujourd'hui totalement incontournable et qui rend service à tout le monde, enfin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, au-delà du corporatisme d'une petite minorité, c'est une avancée centrale pour la pensée et l'action politique et pour l'activité scientifique également. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les points de vue sont liés à des positions et que ces positions, très souvent, plus on est dominé, plus le point de vue lié à votre position, il est effacé, il est silencié, il est... Voilà. Plus aussi fréquemment, il ne sait même pas se dire. C'est-à-dire que plus vous êtes dominé, plus les mots vous trahissent. Et souvent, les acteurs les plus dominés ont une connaissance de leur condition sociale qui n'est pas verbale, qui est dans leur corps, qui est dans leur gestuelle, qui est dans leur moelle épinière, qui est dans leur ventre. Ça, c'est un grand acquis, je pense, de Paolo Freire, de nous dire ça, c'est-à-dire que tous les dominés ont une connaissance de leurs conditions sociales, mais cette connaissance ne se verbalise pas forcément ou se verbalise imparfaitement. Et donc la conscientisation, c'est pas apporter un savoir de l'extérieur, c'est aider à faire en sorte que ce savoir s'articule. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que le juste, c'est de faire en sorte que tous ces points de vue situés puissent apparaître dans l'espace public et peser dans l'équation des décisions et des débats. Voilà. Et les centres sociaux, ils prennent leur part indéniablement. C'est-à-dire qu'ils cherchent à rendre visibles des groupes minoritaires, ils cherchent à permettre à des groupes minoritaires de se mettre ensemble, de discuter, de... voilà. Toute la discussion de cet après-midi, en fait, en gros, c'est comme si on avait soulevé un couvercle et que la marmite s'était mise à bouillir. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire, voilà, les rapports sociaux au sein des centres sociaux sont plutôt euphémisés. Et une fois qu'on a dit ça, ça s'est mis à bouillir, quoi. Bon. Donc voilà, le type d'action que ça appelle, c'est rendre visible la présence et l'expérience de minorités invisibilisées, pour le dire comme ça. Et bon, bah, l'histoire de Jeanne Carl Ormond, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire, notre point de vue n'existe pas dans l'espace public, donc on va écrire un manuel d'histoire. Voilà. Alors, comme je disais au début, le problème, c'est de savoir si... D'essayer d'identifier quelle conception de la justice porte chacun des référentiels. Alors, première représentation d'ensemble, ça donnerait ça. Voilà. Alors, sans rentrer dans les détails, ce qu'on voit là, c'est que en fait, ils font surtout ressources au premier niveau, au niveau de l'organisation. Alors c'est assez paradoxal, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que en fait les centres sociaux pratiquent beaucoup ont des activités de distribution, de redistribution. Quand on dit les gens ont droit aux vacances, il faut les aider à mieux vivre, etc. Ils font de la redistribution, mais très souvent ça ne s'articule même pas, ça ne se dit pas. Les priorités sont ailleurs. Voilà. Il me reste quoi, 2 minutes, 5 minutes? Oui, 5 minutes, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Alors, donc, à partir de là, ce que je propose, c'est juste de prendre les deux extrêmes et d'essayer de voir ce que ça nous dit. Bon. Au niveau organisation, donc on a le référentiel de l'intégration, celui de la cohésion, celui de l'individuation, qui portent en eux des conceptions de la justice sociale, lesquelles... L'intégration, c'est ce qu'on pourrait appeler l'égalité républicaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société est un système d'interdépendance qui précède les individus. Alors, formulé comme ça, c'est un peu abstrait, mais essayez de penser à la façon dont on est dans la société, la naissance. Pour pouvoir naître, il faut qu'il y ait un hôpital, il faut qu'il y ait des médecins qui soient formés, il faut qu'etc., etc. Bref, la société vous précède. Et comme elle vous précède, elle implique qu'il y a des droits et des devoirs qui pèsent sur vous et qui ne dépendent pas de vous. Voilà, c'est ça, qui ne dépendent pas de votre action particulière en tant qu'individu. Du coup, les principes de justice s'appliquent assez peu aux individus, plutôt à des groupes, plutôt voilà. Et pour faire un raccourci rapide, c'est ce qui a donné lieu à l'État-providence de l'après-guerre, qui fonctionne pas sur un principe de responsabilité individuelle, mais sur un principe d'assurance. L'idée, c'est que, comme la société, c'est un ensemble de fonctions interdépendantes, ça peut mettre les individus en danger. Donc, on va les protéger contre ce danger. Voilà. Et là, on a des prestations inconditionnelles. Bon. Quand on dit les gens ont droit aux vacances, on est un peu là-dedans, en fait. C'est-à-dire, on dit, bon, la société n'est pas foutue. En fait, la société n'est pas foutue de garantir la solidarité sociale et nous, on va compenser à notre modeste niveau. C'est ça le raisonnement implicite. Voilà. La justice comme équité, c'est la justice qui considère que les gens sont responsables de ce qu'ils font. Donc en fait, ce qui est central, c'est la question du mérite et c'est toutes ces. Bah, en fait, les prestations sociales conditionnelles relèvent de ça, c'est-à-dire. Êtes-vous sûr que vous méritez ce à quoi vous avez accès? Donc là, le problème, c'est le problème de justice centrale, ça va être celui de la déresponsabilisation des gens. Et il faut responsabiliser les chômeurs, il faut, etc., etc. La justice épistémique, elle s'articule avec le référentiel du conflit. C'est-à-dire qu'on va considérer que le monde social est forcément conflictuel. Et que le consensus, c'est toujours une illusion. C'est-à-dire que le consensus, c'est la raison du plus fort qui s'est imposé à tout le monde. Voilà. Mais ce qui est un peu intéressant, et par rapport à de nombreuses discussions qu'on a eues pendant ces deux jours, c'est qu'en fait, la question de départ de la justice épistémique, ce n'est pas celle du conflit. La question de départ, c'est celle du caractère efficient de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que la société est vraiment démocratique ? Donc en fait, ça déplace la question. Et ce conflit, il nous a beaucoup embêtés. Cette question du conflit, elle nous a beaucoup embêtés. Or là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, une société est démocratique si les conséquences sur les gens des décisions peuvent être prises en compte. Voilà, c'est la première condition. Si la diversité des points de vue est représentée. Et enfin, si le conflit, la possibilité du conflit est défendue. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de conflit, les témoignages des gens sont conformistes. Ils ne sont pas fiables. C'est-à-dire, l'information est de mauvaise qualité. S'il y a une injonction au consensus, si le conflit est considéré comme une pathologie sociale, alors la société ne peut pas se connaître elle-même. Parce que... vous allez arrondir les angles, que vous soyez vous-même concerné ou que vous soyez le porte-parole du concerné, quand vous allez aller voir l'institutionnel, vous allez arrondir les angles. Ce que vous allez raconter n'aura pas la même authenticité. Voilà. Donc en fait, c'est un problème de fiabilité. C'est pas... Voilà. Alors, bon, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut le tenir, ce fameux cap du conflit qui a tellement agacé tout le monde ? On a vu comment engager montre qu'il y a plein d'obstacles à la politisation. Voilà. Peut-être qu'une piste, ce serait de sortir le conflit de cette espèce de ghetto symbolique dans lequel il est. C'est-à-dire que le conflit, ça fait gauchiste, quoi. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, il y a une connotation politique qui est une connotation subversive, etc., etc. Si on aborde les choses en termes de justice épistémique, on n'est plus du tout là-dedans. On est sur, est-ce que la démocratie est vraiment démocratique ? Point. Est-ce qu'elle est efficace ? Point. Voilà. Et là, si vous dites ça, vous ne passez pas pour un affreux gauchiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'utilité sociale, du coup, elle se définit autrement. C'est pas juste faire en sorte que les opprimés parlent. L'utilité sociale, c'est de faire en sorte que la démocratie en France soit efficiente et véritablement inclusive. Ça a une autre gueule, moi il me semble. Voilà.
Merci Régis. Désolé, on a été obligé de te presser un petit peu, mais il y a des contraintes de transport et on a pas mal de collègues qui commencent à partir. Mais avant de clore ce colloque Engagir, moi j'avais envie de faire un petit retour très rapide sur ce qui est ressorti des deux jours, là, enfin ce qu'on a vu pendant les deux jours, et justement faire un parallèle avec ce qu'on vous a présenté hier sur les difficultés de la recherche collaborative, en tout cas en ce qui concerne ce projet Engagir. Mais je me dis qu'aujourd'hui on a quand même réussi quelque chose au bout de ces deux jours, c'est d'avoir des retours et des analyses quand même très très riches et qui nous éclairent sur des questions qu'on se pose quand même depuis un bon moment. Donc on va se mettre au travail dans le réseau des centres sociaux en région Centre-Val-de-Loire, mais en même temps j'ai envie de dire que ça nous conforte et il faut aussi qu'on se rassure sur les directions qu'on prend dans le réseau, et notamment autour des questions de l'évolution des modèles socio-économiques qu'on a abordé dans la journée. Et sur la question de l'acculturation des élus, parce qu'on a déjà entamé ce travail, Thierry parlait tout à l'heure du manifeste 400 élus fiers de leur centre social, c'est quand même un outil qui peut être un sacré levier de reconnaissance de l'action des centres sociaux, donc continuons dans cette direction-là, et je suis convaincue qu'on pourra après valoriser des actions des centres sociaux de la région centre dans le réseau national. Et j'ai envie de dire aussi que la première perspective qui est liée déjà à ce projet Engagir en termes d'action, c'est la mise en place de la formation action à visée émancipatrice que Loïc, mon collègue qui est là, on n'a pas vu du tout, mais je voudrais aussi en parler parce qu'il a aussi travaillé sur le projet Engagir d'une manière ou d'une autre, mais qui animera ces formations en région centre. C'est déjà un premier point de départ de ce qui a provoqué Engagir, donc c'est aussi intéressant de le dire. Pour tout ce qui s'est dit pendant ces deux jours, on s'engage dans le collectif de recherche là à restituer. On ne sait pas encore comment, mais on le fera. Donc les travaux vont encore se poursuivre pour que l'ensemble du réseau puisse avoir accès à tous les éléments qui ont été transmis pendant ces deux journées. Et puis j'ai envie de dire aussi aux centres sociaux, rendez-vous le 29 janvier, démocratie et justice sociale. 29 janvier, c'est le lancement de notre démarche congrès. Donc allons-y, hein, on se la pose la question, on vient de parler de justice sociale, on y va. C'est la mise en bouche des grands banquets dans les centres sociaux de la région, donc enfin, surtout au niveau national, même pas qu'en région centre. Et puis, moi, je voulais faire des remerciements, parce qu'on ne peut pas se passer de ces remerciements, parce que... Sans les 10 centres sociaux qui sont impliqués dans ce projet Engagir, on n'aurait pas été là aujourd'hui à prendre le temps pendant deux jours à réfléchir sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc merci aux centres sociaux qui sont engagés pendant deux ans sur ce projet. Merci aux intervenants extérieurs. Il y en a qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin pour venir jusqu'à nous. Merci Maria. Merci à tous les intervenants extérieurs. Je voulais remercier mes collègues de la FCSF. Zut, c'est trop tard, ils sont déjà partis. Mais je les remercie quand même sans leur soutien. Ils ont été d'un soutien très précieux pour pouvoir continuer à porter ce projet au niveau des centres sociaux, donc merci à eux. Et puis, un grand merci à Sarah, parce qu'en termes de logistique, je ne sais pas où est Sarah. Elle est là. Merci Sarah, parce que ces derniers jours ont été très difficiles. Merci à toutes.
Je ne vais pas en rajouter, mais me joindre à Ramatou pour... remercier très sincèrement les centres sociaux, leurs bénévoles, leurs salariés, le réseau fédéré, l'équipe de chercheurs et toutes les personnes qui ont participé à ces deux journées. Et effectivement, que ce soit sur ces deux journées ou sur tout ce qui les a alimentés et tout ce qui va en sortir, on s'engage à fournir des supports et des restitutions, des retours ou des ressources vers d'autres lectures, d'autres expériences qui pourront être aussi des inspirations au niveau régional. Merci à tous et bonne fin de semaine.